Radio Okapi. Le journal en français, Jacques-Yves Molima.
Le dialogue entre la RDC et le Rwanda a repris depuis samedi 5 novembre sous l'initiative du président angolais João Lourenço. Ce dernier a voulu rétablir la confiance entre les deux pays en froid depuis l'appui avéré du Rwanda aux rebelles du M23. Et puis, en Ituri, dans les groupes Mazabou au sud du territoire d'Irumu, plus de 1000 élèves étudient, les uns à même le sol, les autres sous les arbres, conséquence de manque d'infrastructures appropriées. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Elle revient sur la reprise des négociations de Nairobi 3 et le déploiement de la force kényane en République démocratique du Congo. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Kinshasa et Kigali ont repris les dialogues lors de la tripartite des ministres des Affaires étrangères d'Angola, de la RDC et du Rwanda tenue samedi 5 novembre dernier à Luanda en Angola à l'initiative du président angolais et président en exercice de la CIRGL, João Lourenço. Cette rencontre a voulu rétablir le climat de confiance entre la RDC et le Rwanda en froid depuis le regain de violence dans l'est du pays et l'appui avéré du Rwanda aux rebelles du M23. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
À l'issue de ces travaux, ces ministres des Affaires étrangères ont convenu de maintenir les dialogues entre les autorités de la RDC et du Rwanda comme moyen de résolution de la crise politique entre ces deux pays. Ils ont décidé de mettre en place un calendrier pour accélérer la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda d'ici juillet dernier. Les ministres Tété Antonio, Christophe Lutundula et Vincent Biruta ont plaidé pour le déploiement immédiat du mécanisme de vérification ad hoc à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Ils se sont également engagés à poursuivre les efforts pour une évolution encourageante sur le terrain et préparer les prochains sommets tripartites. Ces pourparlers ont en outre envisagé la tenue des réunions de coordination entre le processus de Luanda et celui de Nairobi et demandent à la médiation de prendre des contacts à cet effet. Pour rappel, le président angolais et président en exercice de la CIRGL, João Lourenço, a été désigné par l'Union africaine comme médiateur en vue de renouer les dialogues entre les deux parties et faire baisser la tension au sein de la sous-région.
Pendant ce temps, la prochaine session du processus de Nairobi devra débuter le 16 novembre prochain à Nairobi au Kenya. L'annonce a été faite ce week-end dans un communiqué publié par la Communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le communiqué précise que la décision a été prise après des consultations menées par le président burundais et actuel président du sommet des chefs d'État de l'EAC. Le communiqué souligne par ailleurs la nécessité de maintenir l'inclusivité en garantissant la participation de toutes les parties prenantes et note que toutes les sessions désormais accueilleront divers dirigeants communautaires. André Kitenge.
Le président du sommet des chefs d'État de l'EAC et président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a tenu vendredi à Bujumbura des consultations avec le facilitateur de l'EAC, le président Uhuru Kenyatta, sur la situation sécuritaire actuelle dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont passé en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre des pistes politico-militaires prévues pour stabiliser l'est de la RDC. Ils ont noté qu'alors que le déploiement de la force est en cours, la voie politique est dynamisée vers une solution durable à la situation sécuritaire prolongée. La réunion a en outre appelé tous les groupes armés étrangers à retourner dans leur pays d'origine respectif sans condition. Au cours de cette réunion, une feuille de route a été mise en place pour la mise en œuvre de la voie politique vers une solution durable à la paix et à la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo et a encouragé la poursuite de l'engagement complémentaire entre le processus dirigé par la Communauté d'Afrique de l'Est et le processus de Luanda pour apaiser les tensions entre les États frères de la RDC. En outre, la réunion consultative a remercié les républiques du Burundi, du Kenya et de l'Ouganda pour le déploiement rapide des troupes et a exhorté les autres pays fournisseurs de contingents à accélérer leur déploiement dans la structure et le cadre convenu. Le président burundais a par ailleurs affirmé qu'il était engagé dans un dialogue avec tous les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est sur l'adoption d'une approche régionale dans le cadre convenu pour gérer la situation et instaurer la confiance entre les États partenaires de la communauté d'Afrique de l'Est.
Et ici au pays, 4 jours après l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État à la suite de l'occupation de quelques localités du Nord Kivu par le M23, le sénateur Augustin Matata Mponyo réagit. Le président du parti LDC et candidat président de la République aux élections prévues en 2023 a, dans une déclaration faite hier dimanche à Kinshasa, affirmé son soutien au FRDC, appelé les Congolais à la mobilisation générale et condamné l'inaction de la communauté internationale. Augustin Matata Ponyo dans cet extrait choisi par Noéla Luzitukabambi.
À mes frères et sœurs de Bunagana et de Rutshuru, je vous renouvelle une fois de plus ma compassion et ma sollicitude. Je félicite et soutiens les forces armées congolaises qui se battent pour préserver la paix et la sécurité de nos frères et sœurs sur les fronts. Au peuple congolais, dans son ensemble, je vous appelle à une mobilisation générale, car en effet, il ne s'agit pas d'une rébellion interne, mais plutôt d'une guerre d'agression à visée expansionniste avec comme objectif final l'annexion d'une partie de notre territoire par le Rwanda. À la communauté internationale, je condamne votre inaction dès lors que les rapports du groupe d'experts des Nations Unies prouvent l'agression explicite du Rwanda qui se cache derrière le M23. Je vous exhorte ainsi d'assumer la responsabilité qui est la vôtre en dénonçant ouvertement l'agression rwandaise et en exigeant le retrait sans délai de ces troupes agissant via le M23.
Justement, au Nord Kivu, 72 heures après l'appel lancé par le président Félix-Antoine Tshisekedi, les jeunes s'enrôlent massivement dans l'armée. Plus de 2000 jeunes se sont fait enrôler à Goma et dans les territoires de Beni. Le point avec Gabriel Ouaminga.
Au total, 806 jeunes de la ville de Goma, parmi lesquels figurent une dizaine de filles, se sont fait enrôler dans l'armée 72 heures après l'appel lancé par Félix-Antoine Tshisekedi à la jeunesse congolaise. Plus de 2000 jeunes du territoire de Beni, où se déroule la même opération de recrutement, ont aussi exprimé leur ferme volonté de servir sous les drapeaux, selon les sources de la 34e région militaire. Réunis hier sur l'esplanade de l'ISC Goma pour la première séance d'entraînement physique, nous avons vu des jeunes déterminés pour la cause noble de sauver la nation congolaise en danger de balkanisation, nous ont-ils dit hors micro. Les responsables de la 34e région militaire devront ensuite procéder, avant la formation militaire proprement dite, à l'identification de chaque candidat recruté pour éviter de nouvelles infiltrations dans l'armée, nous a déclaré un officier de la 34e région militaire qui a requis l'anonymat. Pour l'instant, toutes les recrues de Goma sont gardées dans différents sites, notamment à la 34e région militaire et dans les camps militaires Katindo. En attendant, l'opération de recrutement continue selon les sources de FRDC. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Kapi.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, en Ituri, environ 1000 élèves, dont des déplacés de guerre, étudient dans des conditions déplorables dans les groupements Zabou au sud du territoire d'Irumu. C'est la conséquence du manque d'infrastructures scolaires appropriées, comme par exemple les bancs, les pupitres et les tableaux. Selon la société civile locale qui le rapporte ce samedi, certains enfants étudient assis à même le sol et d'autres sous des arbres exposés aux intempéries dans une zone où les exactions des groupes armés, dont les rebelles des ADF, sont récurrentes. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Il s'agit par exemple des écoles primaires catholiques Kagaba, Madiri, Kombi, CK20, Omina et Pamikongo qui ont souffert des affres de la guerre dans la région. Selon des sources locales, plusieurs écoles ont été soit incendiées, soit vandalisées. Selon un acteur de la société civile locale, environ 1000 élèves suivent les cours à même le sol en classe pour les uns et pour d'autres sous des arbres. Cette situation nécessite l'intervention du gouvernement provincial afin de permettre à ces enfants de jouir eux aussi à leur droit à l'éducation, indique Daniel Masumbuko.
Les enfants sont en train de s'asseoir par terre, ils écrivent de leurs genoux les bâtiments dont ils sont troués et quand il me plaît, les enfants n'étudient pas. L'autorité que nous pouvons demander, comme la France ou la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays, de venir en aide à ces enfants.
Contactez le directeur provincial de l'éducation, dit être au courant de la situation que traversent ces écoles. Il indique que les enquêtes sont en cours pour identifier toutes les écoles en difficulté. Jean-Jacques Masumbuko.
Déplorer ce cas parce qu'il n'y a pas longtemps que cette zone était sous occupation des rebelles et nous ne pouvons pas croiser les bras, on doit les accompagner dans le retour.
Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Autre nouvelle. La COP 27 se tient depuis hier dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte. En y participant, la RDC a comme objectif de contribuer de manière globale à la consolidation du leadership environnemental et climatique de la RDC par sa participation, ses interventions ainsi que ses activités à entreprendre. La délégation congolaise est conduite par Eve Bazaïba, vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable. Paul Matendo.
À propos des activités multilatérales à entreprendre, la délégation congolaise note par exemple contribuer au renforcement de l'intérêt de la communauté internationale dans le bassin du Congo, lesquels se révèlent être un poumon écologique fragile, mais à protéger pour l'intérêt de l'humanité. Identifier des organisations internationales, du secteur public, du secteur privé et de la société civile, susceptibles d'appuyer la RDC dans sa vision comme pays solution à la crise climatique. La délégation congolaise vise également, pendant ses travaux, à assurer une participation efficace et professionnelle à toutes les activités de la COP 27 en défendant les positions du pays. Outre les activités multilatérales, la République démocratique du Congo a dans son agenda les activités bilatérales. La mobilisation des investisseurs internationaux publics et privés est également au rendez-vous. Il s'agira de définir avec eux des stratégies de déploiement rapide d'instruments complémentaires en vue de combler les déficits actuels de financement de la contribution déterminée au niveau national estimée à 48 milliards de dollars américains pour les 10 prochaines années. Explique la délégation congolaise à la COP 27.
Et puis en plus bref, l'Organisation mondiale de la santé rappelle que la crise climatique continue de provoquer des maladies et de menacer des vies et que donc la santé doit être au cœur de ces négociations décisives de la COP 27. Dans un communiqué publié hier soir, l'OMS estime que la conférence doit aboutir à des progrès sur les 4 objectifs clés que sont l'atténuation, l'adaptation, le financement et la collaboration pour affronter la crise climatique. Pour l'OMS, la COP 27 offrira donc une occasion cruciale au monde entier pour s'unir et pour s'engager à nouveau à maintenir l'objectif de 1,5 degrés Celsius prévu par l'accord de Paris. Parlons encore de l'environnement au sud du Kivu. Les pêcheurs du lac Kivu alertent sur une éventuelle disparition de la race de poissons appelée Sambaza si rien n'est fait et dans l'urgence. Plusieurs facteurs sont à la base de cette situation. C'est notamment l'utilisation des filets non conformes à la pêche, mais aussi la multiplicité des tracasseries sur le lac Kivu. Emmanuel Elameji Wakabidi et reportage.
L'espèce de frétin communément appelée Sambaza reste le poisson de grande consommation dans la ville de Bukavu, mais à ces jours, le Sambaza est en voie de disparition totale. Monsieur Patient Bagalois, pêcheur du lac Kivu.
Il y a risque de disparition de certaines espèces de poissons dans le lac Kivu suite à une mauvaise pêche. Mais la vraie mission de ces filets, c'est la destruction méchante puisque ces filets éliminent les alevins. Toute la nuit, un pêcheur qui a un filet maillant plus de 300 mètres, il peut se retrouver avec un ou un demi-kilo de sambaza. Et pourtant, auparavant, il trouvait plus que ça.
Que deviendra la ville de Bukavu sans le lac Kivu? À quoi servirait le lac Kivu sans le frétin dit sambaza qui servent d'économie de ménage?
Le prix sur le marché a purement galopé. Le prix d'un kilo était de 2500 à 3000 francs. Aujourd'hui, le kilo monte même à 8000 francs et les trouver, c'est très difficile. Et d'ailleurs, la majorité de nos populations ne vivent que de ce commerce. Aujourd'hui, ils ne trouvent quoi faire puisque ces sambaza ne sont plus là.
Jeudi dernier, une conférence a réuni toutes les parties prenantes afin de réfléchir avant que le pire n'arrive. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Actualité internationale.
En international, au Mali, face à l'insécurité, la société civile du cercle d'Assongo appelle à la désobéissance civile. Vol, braquage, attaque djihadiste pour dénoncer le phénomène récurrent de l'insécurité, le comité local de la société civile d'Assongo et ses environs a lancé dimanche 48 heures de désobéissance civile dans cette importante localité de la région de Gao, dans le nord du Mali. Mardi et mercredi, ce comité entend paralyser les 7 communes du cercle d'Assongo pour demander aussi à l'État de prendre les mesures qui s'imposent. Et puis, le président français Emmanuel Macron a appelé ce dimanche l'ancien premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour le féliciter de sa victoire aux élections législatives, lors desquelles il a remporté la majorité des sièges avec ses alliés de droite, a indiqué le président français sur Twitter. Nous partageons la même volonté de renforcer les liens déjà si forts entre Israël et la France, a-t-il notamment écrit.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Dans cet entretien avec Michel Kifindangoy, elle nous parle de la reprise des négociations de Nairobi 3 et du déploiement de la force kényane en République démocratique du Congo. Suivez.
Tina Salama, bonjour.
Bonjour, monsieur Michel Kifinda.
Les pourparlers de Nairobi reprennent bientôt. Quelle sera la nouvelle position de la République démocratique du Congo face à l'avancée du M23?
Oui, bien évidemment, nous avons tous vu et lu les communiqués, les derniers en tout cas en date de la East African Community, qui parle effectivement de l'inclusivité. Mais je tenais quand même à rappeler que inclusivité ici ne veut pas dire en tout cas inclure le M23 du processus. C'est plutôt les groupes qui seront restés loyaux au processus de Nairobi. Également, parmi les conditions que nous avions posées à ce moment-là, c'était de respecter le passage des convois humanitaires qui devaient accéder dans les zones qui étaient contrôlées par les rebelles. Alors ceux-là donc seront invités aussi, à moins, on va dire en tout cas, qu'il y ait cessation des hostilités et qu'ils puissent, ce mouvement terroriste-là, se retirer des zones occupées. En plus, on tient quand même à rappeler, parce qu'il y a une sorte de confusion, c'est que ce ne sont pas des négociations. Nous n'allons négocier avec personne, mais c'est plutôt des consultations. Alors, le message de la RDC reste le même, déposer les armes, intégrer le processus PDDRCS, mais... Il y a quand même quelque chose de très intéressant, une nouvelle brèche ou fenêtre que nous venons d'ouvrir, c'est la justice transitionnelle pour ceux qui seront concernés par des crimes importants. Parce qu'il faut quand même le rappeler, le processus de Nairobi, ce n'est pas un blanchiment, ce n'est pas une sorte de purgatoire. On ira vers la justice transitionnelle. S'ils acceptent les conditions données, alors là on verra comment ils peuvent intégrer Nairobi 3.
Comment réagissez-vous au déploiement des militaires kényans à l'est de la République démocratique du Congo ?
Parlant du déploiement des troupes kényanes en RDC, on rappelle quand même c'est un processus. On l'avait annoncé bien plus tôt. Il y a même des gens qui ont douté à un moment qui disaient qu'ils s'étaient retirés. Ben ils sont là. Donc il faut quand même comprendre que c'est dans le cadre de la force régionale. Et la force régionale a un mandat d'éradiquer tout simplement les forces négatives et les forces étrangères qui opèrent sur les sols congolais et qui refusent de désarmer et rentrer chez eux. Il est également important de savoir que tout est centré sur les FARDC. Donc ils le font de manière coordonnées avec les FARDC. Les troupes kényanes viennent combattre tout groupe armé réfractaire au processus de Nairobi. Et puis on va quand même rappeler qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a déjà les troupes burundaises qui sont également déployées et d'autres qui vont suivre. Donc c'est tout un processus. Et comme l'a rappelé si bien le président kényan, il en va de la responsabilité également de chef d'État de la sous-région de le faire pour la RDC parce que nous avons besoin de paix en RDC pour que notre sous-région puisse décoller et se développer.
Quelle sera la mission de ces militaires et où seront-ils basés ?
Où seront-ils déployés ? En tout cas, de la manière dont la cartographie a été faite, les forces kényanes vont plutôt opérer dans le nord Kivu et celles burundaises plutôt au sud Kivu. Et s'il faut peut-être le rappeler ici, c'est que le commandement de la force régionale est tenu par un général kényan et les deux adjoints, le principal est congolais, le deuxième est burundais.
Viendront-ils en appui au FARDC pour combattre les M23 tout en ayant à l'esprit que ces derniers sont soutenus par le Rwanda, un autre pays membre de la EAC?
En tout cas, ce que nous pouvons vous dire à ce sujet, c'est que la force régionale est là pour combattre toute force négative, quelle qu'elle soit, toute force étrangère, tout groupe armé réfractaire au processus de Nairobi. Donc s'ils se retrouvent dans cette catégorie, en tout cas, ils seront dans le collimateur.
Dans son adresse jeudi dernier à la Nation, le chef de l'État a souligné avoir épuisé tous les moyens diplomatiques pour amener la sécurité dans l'Est. Ne pensez-vous pas que ces déploiements des militaires kényans et les nouvelles négociations qui s'ouvrent seront encore une fois de plus une perte de temps?
Il est quand même important de le dire, le processus de Nairobi, c'est pas un processus qui est allé sur mesure pour le M23, mais comme je l'ai dit en tout cas, ça concerne tous les groupes armés locaux et ceux étrangers qui opèrent encore en RDC. Alors, il y a certes des récalcitrants, il n'y a pas que le M23, il y a par exemple le groupe Kadeko, il y a le groupe Zahir qui commettent encore des atrocités. Donc ça veut dire qu'ils se sont auto-exclus. Alors, il faut rappeler, pour terminer, c'est que le président de la République n'y va pas pour Nairobi 3.
Quelle sera la position ultime de la RDC si jamais tous ces moyens diplomatiques et militaires régionaux n'arrivaient pas à atteindre les objectifs escomptés?
Le mécanisme a déjà été prévu par le processus de Nairobi. Colombie. Donc il y a l'option politique qui comprend, on va dire, les consultations. Également l'option militaire qui parle de la force. Donc pour le moment, ce sont nos deux options. On espère que ça va vraiment aboutir. Donc si cela ne marche pas, comme vous dites, eh ben les chefs d'État de la East African Community vont se réunir à nouveau. Mais bien plus important, c'est que le chef de l'État, en tant que chef suprême des armées, va prendre les décisions souveraines qui s'imposent.
Tina Salama, je vous remercie.
Merci à vous.
Voilà, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Polydor Basunga. Merci à toute l'équipe rédactionnelle à travers toute la République, sous la coordination de Piro et la Meji et la supervision de Noëlla Luzitu Kabambi. Merci aussi à vous pour votre particulière attention.